France Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Jean-François Aquili.
Bonsoir, les urgences en crise. Le premier mort en trottinette à Paris. Le discours de politique générale d'Édouard Philippe demain et les 70 bougies du journal télévisé. C'est dans les informés avec vous. Bonsoir, Émilie Tran-Nguyen.
Bonsoir.
Bonsoir, on a l'habitude de vous voir sur France 3. Vous présentez tous les jours le JT de la mi-journée. Également à mes côtés, bonsoir, Amaury Guibert.
Bonsoir.
Vous êtes directeur adjoint des rédactions de France Télévisions et chargé des opérations spéciales. Invité également ce soir, c'est le troisième représentant France Télé. Bonsoir à vous, Hervé Brusini.
Bonsoir.
Et bienvenue, directeur en charge du numérique et de la stratégie à France Télévisions, visage très connu. Vous êtes ancien rédacteur en chef du 20h de France 2. Vous avez fait ça, hein, jadis. Hein.
Oui, j'ai commis ça à plusieurs reprises.
Et notre informé ce soir, bonsoir Albert Zenou.
Bonsoir Jean-François.
Pilier du mardi soir, rédacteur en chef du service politique du Figaro. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT. 95 services d'urgence en grève aujourd'hui à Paris et dans toute la France, selon le collectif Interurgence. Le Sénat a adopté le projet de loi santé en première lecture et ce collectif ne compte pas en rester là après 3 mois de mobilisation, malgré les annonces ce matin de Martin Hirsch, le directeur de l'APHP sur France Info, qui a promis des renforts et un coup de pouce sur les salaires.
Les effectifs des infirmières, des aides-soignantes, des médecins augmenteront parallèlement au nombre de patients.
À quelle échéance ?
Maintenant. La ministre, il y a 3 jours, a dit la prime de dangerosité, celle qui répond à la grande préoccupation. On entendait cette nuit qu'à Rennes, il y a eu une agression de soignants par une patiente, je ne connais pas les circonstances. Mais donc, il le revendique en disant « on est mal payé alors qu'on a un métier à risque ». Et donc la ministre a dit « plus 100 euros net par aide-soignante par infirmière ». Et à ça va se rajouter la possibilité qu'on va débloquer dans les semaines qui viennent avec le gouvernement de pouvoir donner 100 euros de plus aux infirmières qui s'engagent dans des protocoles de coopération.
Émilie Tran-Nguyen, une annonce ce matin, ça va suffire ça ?
Je pense qu'on peut remonter pour comprendre un petit peu cette crise. Déjà, la crise des Gilets jaunes, je pense qu'il est impossible de pas faire le lien avec les Gilets jaunes. D'ailleurs, il y avait beaucoup dans les manifestations et dans les manifestants des représentants des personnels soignants et dont les revendications déjà étaient latentes et étaient là sur la considération dont parle Martin Hirsch, la considération du métier, la rémunération donc, etc. Et longtemps, le problème de la faiblesse de la rémunération avait été compensé par la symbolique que présentaient ces métiers, le fait d'être médecin, d'être personnel soignant. Et là, visiblement, la symbolique ne suffit plus.
Albert Zenou, c'est toujours le même problème, en fait, éternellement, les salaires, les effectifs, désormais la violence.
Oui, c'est les trois composantes de la colère des personnels soignants. Parce qu'on pense que il n'y a pas que des médecins, il y a aussi les infirmiers, les aides-soignants. Les urgences, c'est la cristallisation de tous les dysfonctionnements du système de santé français. Alors, les chiffres sont parlent d'eux-mêmes. Depuis 2000, la dette des hôpitaux est passée de 9 à 30 milliards d'euros. Et pour autant, le système est en train d'exploser. Alors, on parle toujours des gens qui viennent aux urgences alors qu'ils ne devraient pas y aller. Mais s'ils y vont, c'est parce qu'il y a un manque, il y a quelque chose. Ils n'y vont pas par plaisir, c'est pas pour embêter les services d'urgence.
Mais les chiffres des patients, en tout cas, qui se rendent aux urgences, ont plus que doublé. Donc ça aussi, c'est un phénomène.
C'est parce que la médecine de ville n'a pas pris toute la mesure. Est-ce qu'elle peut-elle prendre toute la mesure? On a, c'est ce que beaucoup de représentants de la médecine de ville reprochent justement au gouvernement de pas avoir aux différents gouvernements précédents. Hein. Et on voit bien que le pourrissement de la situation. Il y a trois mois de grève quand même. C'est quand même incroyable.
Il y a quand même deux chiffres qui sont extrêmement frappants dans cette crise. C'est en 96, 10 millions de personnes accueillies aux urgences. En 2016, 21 millions. C'est-à-dire en 10 ans, ça a doublé. Je ne suis pas sûr que les effectif est doublé pour accueillir ces 10 millions de personnes supplémentaires.
Alors, je vais vous faire réagir à ça, vous, Hervé Brusini. Il y a eu donc l'annonce Martin Hirsch ce matin. Il y a eu la réponse quasi simultanée, c'était sur France Inter, du professeur Jonathan Freund, qui est urgentiste à la Pitié-Salpêtrière, et Candice Lafarge, qui est aide-soignante à Saint-Antoine à Paris, qui représente le collectif Interurgence. Écoutez leur double réponse.
Est-ce que c'est rétroactif ?
Expliquer. Je veux bien à partir de maintenant qu'on indexe. Pas. J'imagine que non, mais je veux bien qu'à partir de maintenant on indexe la hausse des personnels sur la hausse de l'afflux aux urgences. Mais on a quand même 10 ou 15 ans à rattraper.
Mm-hmm. Candice Lafarge sur ces annonces.
Je rejoins Jonathan. Trop insuffisant. On a besoin de mesures dès à présent.
Hervé Brusini, il va en falloir des moyens.
Oui, il va en falloir. Et il y a surtout, pour moi, le moyen de prendre la juste mesure, c'est un mot que vous avez utilisé, une expression, mais précisément, on a l'impression qu'on est face à un concours de considérations successives. Je considère votre problème, je le déplore, dit le gouvernement. En réponse, il y a « ça ne va toujours pas » et tout le monde est sincère, tout le monde semble sincère. Je trouve cette crise hospitalière comme une sorte de précipité actuelle. Et Émilie parlait de la crise des gilets jaunes, c'est bien ça le problème. Qui est pris en considération? Dans quelle mesure? Comment voit-on, aperçoit-on le problème? Et qu'est-ce qu'on met en face? Et de ce point de vue, la déclaration du président de la République à Genève montre peut-être quelque chose, on peut l'espérer, où il parle, lui, d'une difficulté.
De la méthode, on l'écoutera tout à l'heure. Oui. Il parle de méthode, changer de méthode.
Est-ce que le capitalisme fou a investi l'hôpital? C'est peut-être une des questions.
Amaury Guibert, vous évoquiez les chiffres, hein, ce dédoublement, ce doublement en fait de fréquentation en 10 ans, disiez-vous tout à l'heure. C'est aussi le problème des déserts médicaux. Eh bien, ils se déversent dans les services d'urgence des villes les plus proches. On a l'impression que les gouvernements successifs sont conscients de la difficulté, mais que ça n'avance pas.
On a l'impression que c'est un problème dont on parle depuis des années et des années, voire des décennies, dont on n'en a pas trouvé la clé. Et encore une fois, le gouvernement actuel se retrouve confronté à cette difficulté. Et de l'autre côté, on a des personnels soignants dont on a l'impression qu'ils tirent la sonnette d'alarme depuis des années et des années. Et ça nourrit un sentiment d'impuissance. Hervé parlait de considération dans les discours actuels. Mais ce discours-là, et je trouve qu'il y a un parallélisme frappant et assez terrible pour la classe politique qui est leur impuissance.
Allez, 20h10 sur France Info, rappel de l'info avec vous, Jules Dequis.
Après l'Assemblée nationale, le Sénat adopte ce soir le projet de loi santé porté par Agnès Buzyn. Les sénateurs renforcent plusieurs mesures du texte pour réduire les déserts médicaux notamment. Ils proposent par exemple de favoriser l'installation de jeunes médecins dans les zones rurales avec des incitations fiscales. Le système des retraites français sera de retour à l'équilibre financier au plus tôt en 2042, dans 23 ans, d'après le rapport annuel du Conseil d'orientation des retraites. L'objectif est repoussé de 6 ans par ses experts car les déficits vont se creuser bien plus que prévu dans les années à venir. Les dépenses sont stables, mais les recettes baissent selon cette étude. C'est l'application d'un accord judiciaire avec la Turquie. Un djihadiste français et ses deux femmes viennent d'être transférés à la justice française. Ils sont interrogés par le renseignement intérieur depuis leur arrivée ce matin sur le territoire. Leurs 9 enfants sont eux placés par le parquet de Bobigny. Au Soudan, les chefs de la contestation acceptent de renouer le dialogue ce soir avec les militaires au pouvoir. Ils appellent même à cesser la désobéissance civile initiée depuis que l'armée a tiré sur les manifestants au début du mois. C'est ce qu'annonce le médiateur éthiopien mandaté pour trouver une solution politique à cette crise. Elle a commencé il y a maintenant 2 mois depuis la destitution du président Omar el-Béchir. Par une température très fraîche, dans les montagnes, sur une pelouse synthétique, les joueurs de l'équipe de France de football défient Andorre ce soir dans une grosse demi-heure. Match des qualifications à l'Euro 2020 et une victoire déjà impérative après la défaite contre la Turquie le week-end dernier.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Faut-il durcir la législation sur les trottinettes électriques? On a l'impression qu'on répète cette question toutes les semaines. Un jeune homme de 25 ans est mort hier soir. C'est le premier percuté par un camion dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris. La maire de Paris, Anne Hidalgo, jeudi dernier, avait évoqué le problème de la vitesse de ces engins, annonçant une mesure d'interdiction de stationnement sur les trottoirs.
Sur la vitesse, qui est un véritable problème, je demande aux opérateurs de toutes les trottinettes électriques qu'ils brident à 20 km/h dans tout Paris et à 8 km/h dans les aires piétonnes, les aires de rencontre, les zones, les aires les plus centrales, que ces trottinettes soient bridées, alors qu'aujourd'hui, elles sont sur 25 km/h.
Hervé Brusini, même à 20 km/h, c'est beaucoup trop.
Mais oui, c'est beaucoup trop. Nous sommes à un moment où, quand on sort dans la rue, la fulgurance peut vous faucher à tout moment, soit par le scooter, comme il m'arrive de faire, sur le trottoir, je le confesse ici.
Vous voulez dire quoi, vous roulez sur le trottoir en scooter?
Ça m'arrive, oui, ouais, je sais. Mais oui, mais j'ai confessé.
Mais ça a évité, hein.
En amont, ce qui me semble incroyable, c'est le fait, vous savez qu'il y a plus de 12 fournisseurs de trottinettes qui viennent soit des États-Unis, soit de Chine, que même Usain Bolt a ses trottinettes sur les trottoirs parisiens. Et que cette affaire de trottinettes est pour moi un peu l'incarnation du numérique lorsqu'il s'avère, lorsqu'il se présente sous ses jours les pires, c'est-à-dire la déréglementation brutale et soudaine. C'est ce qui fait qu'en matière de mobilité, aujourd'hui, le risque est au coin de la rue.
Ouais, sauf que c'est quand même une très bonne idée. Pardon, les trottinettes, c'est une très bonne idée, comme mais les vélos en libre-service, les free-floating, etc.
Il y a
un décalage entre ces bonnes idées qui permettent de penser la mobilité dans les villes de façon totalement différente, et c'est quelque chose de très actuel, et le décalage avec les pouvoirs publics qui ont du mal à appréhender ce genre de phénomène et à légiférer pour l'encadrer quand même un minimum. Et on a toujours l'impression d'une réaction qui arrive beaucoup trop tardivement.
Comment ça se passe dans les autres capitales? Je pense à Berlin notamment.
Alors Berlin, c'est une ville où le vélo est extrêmement présent, donc la trottinette finalement n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais par exemple pour les vélos en libre service, on les connaît, ces opérateurs, ils ont essayé de s'implanter et ça n'a pas vraiment pris parce que mettre des vélos partout, bah les Allemands ça les a un peu choqués. Et de toute façon, la ville était déjà pensée pour les nouvelles mobilités, la mobilité verte. Donc ces modes de déplacement n'apportaient pas vraiment grand chose.
Émilie Tranenguyen, on évoque ce sujet dans tous les journaux télévisés puisqu'on fête les 70 ans du JT. Vous avez la sensation de répéter la même chose à chaque fois?
Ben oui, justement, moi, on en a parlé en conférence de rédaction et on se demandait quand on a vu si c'était le premier ou pas, comme si on avait l'impression qu'en fait, il y avait déjà eu des victimes, mais déjà eu des victimes si graves qu'il y avait déjà eu des morts. Et en fait, non, alors c'était le premier mort à Paris. Il y avait eu une personne âgée qui avait été percutée, elle, par une trottinette et donc qui était décédée à Levallois-Perret, mais quelqu'un qui roule en trottinette, c'était la première victime. Mais quand on écoute, et là je me rappelle des médecins de l'hôpital qu'on a interrogé pour faire des reportages sur la trottinette, qui nous parlent d'accidents extrêmement graves qui ressemblent donc des blessures de guerre, des blessures de grands accidentés de la route. Je pense pas que le problème ça soit le nombre de fournisseurs, le nombre de propositions. Là on est plus dans un business model assez libre et assez déréglementé. Le problème c'est le manque de réglementation sur comment on roule, où est-ce qu'on roule, à quelle allure. C'est vrai qu'on peut aller n'importe où. Il y a une véritable anarchie, on va dire, depuis l'arrivée des trottinettes.
Albert Zellou, il y a la problématique de la mobilité dans les villes derrière cette affaire. Pouvoir d'achat, environnement, mais aussi désormais sécurité.
Oui, moi qui suis un adepte absolu de la liberté, je pense que la liberté sans contrainte, ça n'existe pas. Et il faut des règles. Et les trottinettes montrent... Le problème de cette liberté non contrôlée, malgré tout, indépendamment du risque, c'est les trottoirs envahis par les trottinettes, enfin, qui empêchent de se bouger, enfin de bouger. C'est terrible. Et je pense que il est bon de réguler et de régler ce problème.
Il est bon de réguler parce que aussi, vous me disiez, il y a un problème de mobilité.
Il y a un vrai problème de mobilité.
Dans certaines villes, aux États-Unis, les trottinettes ont permis de désenclaver, de décentraliser et bref, de faire bouger la population et justement d'améliorer l'économie d'une ville et justement l'accès à la culture, de pouvoir se rendre à l'autre bout de la ville en trottinette parce qu'il n'y avait pas d'autre solution.
Hervé Brugiani, sur ces questions de mobilité dans la ville, il y a toute la problématique qu'évoquait tout à l'heure Émilie Tranenguyen en creux. Hein, souvenez-vous, le démarrage du mouvement des gilets jaunes qui part sur des problèmes au fond de mobilité, d'automobile, de prix des carburants. Soudain, on a une belle solution et elle se heurte à une forme de réalité qui est un petit peu inattendue.
C'est vrai, mais je ne suis pas sûr que tout cela soit du même ordre. Je pense qu'il y a un problème de mobilité dans une sorte de vision moderne d'une hypermobilité personnelle. Avec, par exemple, ce modèle de roue unique ou ce modèle-là qui permet à tout moment de pouvoir plier la trottinette et être dans une forme d'hypermobilité. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en amont, il y a des plateformes numériques Tout ça n'existerait pas s'il n'y avait pas la plateforme numérique. Et c'est cette économie-là qui, pour l'instant, provoque le choc dont parlait Amaury à l'égard des institutions qui ont bien du mal à appréhender cette affaire et, comme vous le dites tous, à la réguler. Parce que finalement, il y a là aussi, comme pour les hôpitaux, une forme d'impuissance, je trouve, de la puissance publique par rapport à tous ces nouveaux phénomènes, comme celui-ci, par exemple.
Oui, nouveaux phénomènes. Ah oui, allez-y.
Je voulais juste ajouter qu'on parlait donc de la crise des gilets jaunes, donc problème de mobilité et tout ça, avec un but, lutter contre le dérèglement climatique, donc pour empêcher la pollution. Juste une parenthèse pour dire que la trottinette, en fait, est hyper polluante parce que sa durée de vie est très courte, je me rappelle plus, mais elle n'est pas faite pour durer longtemps. Oui, voilà. Donc, ça n'est pas du tout écologique.
Durée de vie très courte, des batteries qu'il faut
faire
qu'il faut alimenter. Sont souvent des camionnettes diesel qui viennent la nuit les alimenter dans la rue. Amaury Guibert, ces problématiques de mobilité, par-delà le phénomène des trottinettes dans les grandes villes et pas seulement à Paris, ce sont des sujets nouveaux qui s'imposent dans les JT aujourd'hui.
Ah, totalement, parce que le JT est le reflet aussi de la société et de ses évolutions. Donc la mobilité, toutes les problématiques autour de l'environnement sont totalement ancrées dans les JT aujourd'hui. On est très à l'affût à la fois de ces nouvelles tendances, mais aussi des problèmes que ça peut engendrer, des problèmes écologiques pour les trottinettes, ou des problèmes politiques en termes de législation, ou des problèmes économiques, parce que ces opérateurs, en fait, ils sont très malins. C'est effectivement des sociétés assez costauds financièrement, mais qui comprennent extrêmement bien la législation et qui vont se dire, tiens, on peut aller à Paris, on peut en mettre partout, parce que les Français ont oublié de légiférer. Et on a eu exactement le même problème, encore une fois, avec les vélos qu'on retrouvait partout, jetés dans le canal de l'Ourcq ou dans la Seine, et malgré ça, la puissance publique n'a pas légiféré et on se prend le problème des trottinettes.
Ouais, on se le prend en pleine figure, c'est le cas de le dire. Albert Zénou, ce problème va s'installer dans la campagne des municipales parisiennes notamment.
Je pense que ce sera un des thèmes principaux, en tous les cas sur la mobilité, bien entendu, pas seulement les trottinettes, mais toute le problème de la mobilité.
Et sur la maîtrise de ce nouveau intervenant,
que soit, et puis les embouteillages derrière, la place de la voiture dans Paris et dans les grandes villes, ça sera un problème intéressant. Sûr.
Allez, 20h20 sur France Info, le rappel de l'info avec Jules Dequisse.
En plein mouvement de grève dans les urgences, le Sénat adopte ce soir le projet de loi santé d'Agnès Buzyn. La ministre promet qu'il contient des mesures qui pourront soulager les urgentistes. Elle compte sur un meilleur aiguillage des patients en amont. Les sénateurs de droite renforcent quant à eux plusieurs mesures pour lutter contre les déserts médicaux. 4 jeunes sur 10 ont déjà bu de l'alcool à leur entrée au collège. En terminale, tous ou presque ont fini par essayer. Et pour le cannabis, un tiers des lycéens y ont déjà goûté. Ce sont les résultats d'une étude de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies publiée aujourd'hui. Elle montre en revanche que les jeunes fument de moins en moins la cigarette. Emmanuel Macron reconnaît une erreur fondamentale de méthode dans son appréhension du mouvement des Gilets jaunes. Il estime y avoir apporté de bonnes réponses, mais trop loin de ses concitoyens, en considérant qu'il y avait des sachants et des subissants. Un petit mea culpa exprimé tout à l'heure à Genève devant l'Organisation internationale du travail. Le Botswana dépénalise l'homosexualité. Les minorités ne doivent pas être exclues et ostracisées, explique un juge de la haute cour du pays qui a pris cette décision. À l'échelle mondiale, il reste au moins 67 pays qui criminalisent les relations homosexuelles d'après les Nations Unies. Et puis la meilleure pâtissière du monde est française. Jessica Prealpato reçoit ce titre décerné par le classement du World 50 Best Restaurants, les 50 meilleurs restaurants du monde. À 32 ans, elle officie au Plaza Athénée à Paris. Sa spécialité, des desserts à base de fruits pratiquement sans sucre, puisque la chef mise surtout sur l'acidité.
France Info. 20h-21h, les informés, Jean-François Aquili.
Voilà, Jules Dequisse l'évoquait à l'instant, vous l'aviez évoqué vous aussi, Hervé Brugini, je vous rends César ce qui appartient à César. Ce qu'a dit le chef de l'État à Genève devant l'OIT en revenant sur la crise des Gilets jaunes.
La France a traversé ces derniers mois une crise très dure, mais que j'ai personnellement vécue comme une forme d'opportunité. Parce que le peuple français ne se résout jamais. Et lorsqu'il dit avec force ce qu'il a dit, je crois qu'il faut avec beaucoup d'humilité savoir écouter, savoir constater ce qu'on a mal fait, ne pas arrêter de faire ce qu'on doit faire, savoir changer de méthode, mais entendre, je crois, l'intuition, le message profond. Mais nous avons peut-être parfois construit des bonnes réponses trop loin de nos concitoyens, ou en considérant qu'il y avait des sachants et des subissants. Et je pense que c'était une erreur fondamentale.
Allez, on va faire plancher le Figaro. Albert Zénou, les sachants, les subissants, décryptage.
Oui, bah c'est il revient un peu sur la thématique qui prend beaucoup de place aujourd'hui entre un bloc élitaire, ce qu'on appelle le bloc élitaire, et un bloc populaire. Le bloc élitaire, ce sont ceux qui bénéficient de la mondialisation, qui sont aptes et adaptés au nouveau monde qui vient. Et puis vous avez les classes populaires, le pôle oui. populaire oui. Qui lui subit au contraire les assauts de la mondialisation, et donc une sorte de remise en perspective de la lutte des classes d'un point de vue marxiste. Mais bon, pour ce qui est du président, en tous les cas, il reconnaît une chose, c'est de s'être trompé entre guillemets, mais malgré tout pas du tout, parce qu'il avait
trompé
compris.
Trompé de méthode.
Parce qu'il revient quand même de bonnes réponses.
Il revient, voilà.
Donc le mea culpa il avait, quand même,
c'est le mea culpa. Il avait compris. Il dit qu'il a compris, qu'il avait tout compris avant, et que les réponses n'avaient pas été totalement adaptées. Mais voilà, ça c'est une caractéristique un peu d'Emmanuel Macron. Hein.
Amaury Guibert, c'est un mea culpa, mais limité quand même, non?
Oui, assez limité. Alors effectivement, sachant, subissant, ces peuples, élites, mais je trouve que le mea culpa est assez limité. Je trouve que cette expression, voilà, on a trouvé les bonnes réponses, mais on n'a pas su les expliquer. C'est un peu de l'ancien monde politique, je trouve, parce que c'est quelque chose qu'on entend depuis fort longtemps de la part des responsables politiques qui considèrent effectivement apporter les bonnes réponses, avoir les bonnes politiques, et c'est toujours la pédagogie. On n'a pas assez expliqué, on n'a pas assez dit les choses comme elles devaient se passer. Et donc pour moi, ce mea culpa semble un petit peu.
Alors justement, Émilie Tran Nguyen, pour poursuivre ce que dit à l'instant Amaury Guibert, est-ce que nous sommes pas dans une sorte de levée de rideau de ce que va dire au fond Édouard Philippe demain? Ça va être on continue les réformes, mais on change la méthode, mais on change pas le contenu en fait.
C'est vrai que c'est marrant parce que le discours d'Édouard Philippe est attendu comme lancer l'acte 2 du quinquennat d'Emmanuel Macron. Enfin, Emmanuel Macron délègue un peu de responsabilité à son Premier ministre, sauf que ça y est, il fait un discours quand même assez fort. La veille, visiblement, il ne peut pas s'en empêcher. Je voudrais juste revenir sur le sachant subissant. C'est exactement ce qu'Amaury Guibert dit. Il le dénonce et en même temps, il continue de l'être. Je suis le sachant qui donne les bonnes réponses, mais je n'ai pas su le faire passer assez bien. Les premiers de cordée, c'est quand même lui qui avait lancé cette notion-là. Et c'est ce que dénonçaient les Gilets jaunes, c'est ce que dénonçaient les manifestants, les Français. Ce manque, ce sentiment de ne pas être représenté, c'est toutes ces réponses-là qu'il fait et toutes ces mots compliqués qu'il a toujours quand il intervient. Et qui s'adresse aux Français.
Hervé Brugini, vous trouvez ça un brin trop sophistiqué ou pas?
Le président essaye toujours de reconceptualiser avec des mots nouveaux la vie politique.
Mots nouveaux ou mots trop...
Subissant, c'est une nouvelle manière de parler de la lutte des classes, d'élites ou autres. Oui. Et donc, ça va nourrir un certain nombre de commentaires, d'articles. Nous-mêmes, nous allons parler des sachants et des subissants. Au passage, d'ailleurs, je ne souhaiterais pas que les journalistes soient, au regard de ceux qui les lisent, les regardent ou les écoutent, des sachants versus des subissants. Ce serait la pire des choses pour nous.
Le pire, ce serait être des sachants subissants.
Oui, certainement. Mais nous avons quand même juste un petit peu de lucidité, surtout quand on a 70 ans de journal télévisé dans les jambes, vous savez.
Albert Zénou, l'agenda des réformes, on le sait, assurance chômage, retraite, plan pauvreté, revenu universel d'activité, très embouteillé. Quelle est la priorité selon vous? Qu'est-ce qu'on va apprendre demain?
Demain, comme vous l'avez dit, Édouard Philippe va redire qu'il maintient le cap. Donc c'est l'acte 2, effectivement, mais on maintient le cap des réformes. Édouard Philippe a été renforcé, les résultats des élections européennes l'a replacé un peu au centre du jeu. On voit bien que Emmanuel Macron veut revenir un peu aux armes premières de la Ve République, avec un président un peu plus... qui prend un peu plus de hauteur. Édouard Philippe à la manœuvre dans l'action gouvernementale. Donc il y a cette volonté de répartir les choses. Mais je reviens sur ce qu'avait dit Émilie tout à l'heure, c'est que le président ne peut pas s'empêcher de parler juste avant le Premier ministre. Déjà pour le premier discours de politique générale, il avait fait lui-même, il avait réuni le Congrès à Versailles où il avait donné un discours de politique générale.
Qui était quand même un engagement de campagne, une promesse de campagne de s'adresser justement au Congrès chaque année pour faire le bilan de sa politique nationale
et européenne. Mais c'est lui le taulier, comment
dit. Que dites-vous, Hervé Brugini, quoi?
Ben, je dis, c'est lui le taulier, c'est lui qui est le chef.
C'est le patron, c'est le boss.
Évidemment.
Mais au regard des institutions, c'est tout à fait logique que le président s'exprime d'abord et que le Premier ministre mette en œuvre la politique définie par le président. Il n'y a pas de... On est quand même dans la lettre de la Constitution de la Ve République.
C'est vrai, c'est vrai. Mais la veille d'un discours de politique générale, bon, c'est pas toujours...
Nous parlerons de politique générale, du moins de ce que va proposer le Premier ministre demain, mais également, éminemment, la crise des Républicains qui se poursuit à chaque jour. Son épisode dans la deuxième partie des Informés, ce sera juste après la météo et le rappel de l'info. On se retrouve dans une poignée de minutes sur France Info.
Et si on était sûr d'être tout le temps connecté à l'étranger pour ses clients?
Moi, avec mon forfait Orange Performance Pro, j'envoie mes mails et transfère des fichiers depuis l'Europe, les USA et le Canada.
Et moi, en plus, avec les recharges data, j'anticipe et je gère ma pizzeria depuis la Thaïlande.
Ben moi, je peux prendre une recharge data avec l'appli Orange Pro depuis le Népal.
Ah ouais, t'as pas froid aux yeux, toi, hein?
Avec les forfaits Performance Pro et les recharges data adaptées à votre destination, restez connecté à votre business où que vous soyez. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine, réservée aux professionnels. Conditions et détails sur orangepro.fr.
Simone a 94 ans. Elle est en bonne santé, mais il y a des choses qu'elle ne peut plus faire. Sa fille Aude passe chez elle tous les soirs après le travail pour lui faire ses courses et vérifier que tout va bien. Un jour, elle décide enfin d'appeler Petit-Fils. Grâce à Petit-Fils, une auxiliaire de vie professionnelle vient chaque jour chez Simone lui préparer son dîner et passer la nuit avec elle.
Petit-Fils, l'aide à domicile sur mesure pour les personnes âgées. Petit au pluriel, -fils.com.
Allez, les prévisions de la météo avec vous, Elodie Calac pour Météo France.
Encore instable sur le nord-ouest demain, le matin de la Bretagne, vers la Touraine et le nord de l'Aquitaine, ce sera encombré avec des averses orageuses. L'après-midi, elles gagneront la Normandie, la région parisienne, le nord de la Seine, effaçant les éclaircies. Un peu de grêle et de bonnes rafales de vent possibles. Sur la Lorraine et l'Alsace, la matinée sera parfois pluvieuse, mais ça ne durera pas, les éclaircies s'imposeront. Et puis des Landes et du Pays Basque, vers le Massif central, le Jura, les Alpes, la Méditerranée, ce sera agréable avec du soleil. Les températures commenceront à remonter, souvent 7 à 14 degrés le matin jusqu'à 17 à Nice, l'après-midi 15 à 19 degrés sous les averses et 19 à 26 degrés en allant vers le sud et l'est sous les éclaircies.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
h 30 sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir mon cher Julien Longlet.
Bonsoir Jean-François, on l'apprend à l'instant, deux surveillants sont pris en otage par un détenu ce soir à la prison de Condé-sur-Sarthe dans le département de l'Orne. C'est dans cette même prison qu'en mars dernier, un détenu radicalisé avait attaqué deux surveillants avant de se retrancher avec sa compagne pendant près de 10 heures dans une unité de vie familiale de la prison. Une cellule de crise a été ouverte à la chancellerie. L'appel à témoins de la police nationale lancé aujourd'hui pour tenter de retrouver l'automobiliste de 20 ans qui, en tentant d'échapper à un contrôle des gendarmes, a tué un enfant de 10 ans et en a blessé un autre grièvement de 7 ans. Ça s'est passé dimanche dans l'agglomération de Lorient. Il a ensuite pris la fuite. Cet avis concerne aussi la passagère du jeune homme au moment des faits, et ce alors que plusieurs dizaines de personnes d'anonymes sont venues rendre hommage aujourd'hui à l'enfant de 10 ans et déposer sur place des centaines de fleurs blanches ou encore des peluches sur le trottoir. Nouvelle journée d'action des syndicats d'urgentistes dans les hôpitaux. Aujourd'hui, une centaine de personnes notamment ont manifesté devant le ministère de la Santé. Une délégation a été reçue et dans le même temps, le Sénat a adopté ce soir en première lecture le projet de loi santé porté par Agnès Buzyn après notamment y avoir injecté plusieurs nouvelles mesures pour lutter par exemple contre les déserts médicaux. Le tout donc sur fond de crise des urgences. Le changement, c'est maintenant pour Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus a largement remanié son équipe pour le dernier match de la saison ce soir dans la Principauté d'Andorre. Seuls 4 titulaires battus samedi 2-0 en Turquie sont dans le 11 de départ. Loris, Pogba, Griezmann et Mbappé. Un match à ne pas perdre pour les Français et très attendu en Andorre. Sébastien Berriot.
La modeste équipe d'Andorre n'est jusqu'ici jamais parvenue à se qualifier pour une grande compétition internationale. Ce sera évidemment compliqué face aux champions du monde. Les supporters andorrans sont à la fois réalistes et pleins d'espoir, comme Erika qui pratique le football en amateur à Andorre-la-Vieille.
C'est important pour l'Andorre pour nous faire reconnaître, pour voir que même si on est un petit pays, on a des qualités, on est important aussi. C'est très dur, c'est une équipe très forte comparée à l'Andorre, mais je crois qu'ils vont jouer plus en défense comme ils ont fait avec le Portugal, mais ils vont être capables de faire un bon match et d'avoir un bon résultat.
Ce match est aussi un gros événement pour les Français qui vivent dans la petite principauté, comme Philippe Laboutelet, professeur de sport au sein du lycée français.
C'est une rencontre exceptionnelle, jouer contre les champions du monde. Je pense que mes élèves qui sont autour de moi le diraient. C'est un événement qui se reproduira peut-être jamais.
Voilà, reportage signé Sébastien Berriot. Coup d'envoi 20h45 de ce match à suivre en direct sur France Info. 20h33, la deuxième partie des Informés tout de suite avec Jean-François Akili.
20h, 21h, France Info, les Informés, Jean-François Akili.
Avec nos invités, Émilie Tran-Nguyen, journaliste présentatrice du JT de la mi-journée sur France 3. Vous animez également Ouvrez le 1 avec Éric Fotorino sur France Info TV, avec Amaury Guibert, directeur adjoint des rédactions de France Télévisions et responsable des opérations spéciales, les OPEX, avec Hervé Brusini, directeur en charge du numérique, de la stratégie et de la diversité à France Télévisions, ancien rédacteur en chef à plusieurs reprises du 20h de France 2. Ce garçon, effectivement, est un véritable couteau suisse. Et avec Albert Zenou, rédacteur en chef du service politique du Figaro, qui n'est pas de la télé, il est de l'écrit.
Mais c'est bien quand même.
Mais merci d'être venu.
Nous allons en venir aux Républicains. Il y a décidément le feu, il se passe tous les jours quelque chose chez LR. L'annonce hier soir de la démission de Florence Berthoud provoque des remous au sein de la droite parisienne. Écoutez ce qu'en a dit Rachida Dati, la maire du 5e et candidate au municipal. C'était chez nos amis de BFM Paris.
Quand vous êtes électeur, quand vous êtes habitant, vous votez pour des gens qui ont de la colonne vertébrale et qui ont des convictions. Et donc, sa stratégie est perdante-perdante. En plus, elle n'a jamais été approchée par En Marche. Donc, c'est une anticipation. C'est comme les traîtres. Il y a des gens qui trahissent sans qu'on leur demande quoi que ce soit. Et puis, je pense que des gens qui trahissent, trahiront de nouveau.
Voilà, donc Florence Berthoud qui est maire du 5e et Rachida Dati,
du 7e,
absolument. Merci Albert Zenou, c'est violent, trahison, dit Rachida Dati.
Ah bah c'est une trahison, enfin en tous les cas, elle abandonne son parti, elle abandonne le parti qu'il a fait élire dans le 5e arrondissement. Alors c'est pas tant pour rejoindre Emmanuel Macron, mais c'est surtout pour empêcher Rachida Dati d'être élu, enfin de se présenter. En tous les cas, il y avait une montée en puissance de l'opposition face à contre Rachida Dati.
Et vous voulez dire que ce n'est pas un ralliement sincère, ce sont des considérations électoralistes locales.
Je pense qu'il y a beaucoup de considérations électorales et électoralistes. Chaque maire, et dans toute la France et à Paris en particulier, a vu les résultats le 26 mai au soir dans sa ville et dans son arrondissement et a compris qu'il y avait des choses qui avaient changé. Alors, soit on maintient le cap, là aussi, soit on a un peu de recul et soit on peut céder parfois à la panique. Il y a beaucoup de maires qui cèdent à la panique.
C'est panique à bord. Hein. Je n'aimerais vraiment pas être aujourd'hui un maire LR voyant ce qui s'est passé aux européennes et ce qui se profile au mois de mars pour les municipales, c'est clair. Et des défections, des trahisons, on l'appelle ça comme on veut, il y en aura encore par dizaines d'ici la fin du mois de mars.
Il y aura surtout, je pense, des maires qui vont aller sans étiquette, sans rejoindre véritablement ni Emmanuel Macron ni un autre parti, mais ils se présenteront sous une étiquette majorité municipale et en cherchant à rejoindre et à rallier le plus d'électeurs possible.
Je vous propose d'écouter ce qu'en a dit Florence Berthoud sur France Info tout à l'heure, qui parle de rétrécissement de la droite.
Il faut faire attention au procès en ringardisation. Moi, je fais plutôt le constat que, d'une manière générale, ces dernières années, il y a eu une forme de rétrécissement idéologique.
Émilie Tran-Nguyen, il y a aussi un aspect idéologique dans cette affaire.
Bien sûr, il y a un aspect idéologique, mais c'est complètement antinomique avec ce que Florence Berthoud disait sur votre antenne il y a quelques jours. Je veux un candidat LR à la mairie de Paris. Ça me fait aussi penser à Valérie Pécresse qui, le 15 mai, je crois, disait que la droite n'était pas morte, qu'il fallait faire du bruit, que la valeur fondamentale, c'était la fidélité. C'est juste symptomatique du mal-être et du malaise de la droite en France. Et alors, qui est le responsable et qui peut sauver la droite? Je pense que la droite manque juste d'une figure aujourd'hui et peut-être que tout cela...
Et d'une ligne. Et d'une vraie ligne, une colonne vertébrale idéologique. C'est un parti qui s'est fait braconner, ça, oui. par En Marche et qui a été tenté d'aller voir à leur droite. Et donc, effectivement, il y a une vraie crise d'identité, une vraie crise de sens pour ce parti-là.
La droite a toujours eu plusieurs lignes.
C'est nous. C'est ça.
Il y a toujours eu plusieurs lignes. Il n'y a jamais eu une ligne directrice.
Mais ils ont eu des personnalités capables de faire la synthèse.
Hervé Brésigny, les grandes agglomérations ont voté Macron aux européennes, grosso modo, et finalement, les LR disposent des maires et La République En Marche des électeurs.
Oui. Vous savez, Jean-François, je me demande si tout ça passionne profondément tous les électeurs. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur visage de la politique.
Les électeurs ou les auditeurs, enfin, ou les téléspectateurs qui nous regardent ce soir, vous voulez dire les Français en général?
Oui, je dirais en général. Je pense que ça appartient peut-être au vieux monde qui est en train de craquer, comme on dit aujourd'hui. Et il y a quelque chose qui se passe là, un peu de l'ordre du tonton flingueur que je ne trouve pas très à la hauteur du sujet aujourd'hui et de l'exigence démocratique qu'on attend
Preuve en est, dans les faits, dans les conducteurs des journaux, dans les émissions politiques dont on a parlé tous ces derniers mois, on n'a pas du tout parlé de la droite, on n'a pas du tout parlé de la gauche, d'où d'ailleurs leur difficulté à exister lors des élections européennes. On a parlé d'Emmanuel Macron, d'ailleurs on ne parle pas du gouvernement, on ne parle pas d'Edouard Philippe, on parle d'Emmanuel Macron et des Français et des revendications et des crises.
Mais vous n'avez pas la sensation que c'était le cas auparavant diverses. Avec les présidents précédents?
En tout cas, il y avait des contradicteurs, il y avait des partis de l'opposition qu'on a un peu perdu.
Il y a des contradicteurs et des partis d'opposition.
Moins fort,
parce qu'aujourd'hui, Macron domine électoralement, médiatiquement, politiquement. Donc, il est la figure centrale de la politique française. Mais du temps de Nicolas Sarkozy, c'était un peu pareil. Hollande, peut-être un peu moins. Mais quand vous avez un président fort qui rassemble beaucoup et qui fait parler, qui est l'objet de beaucoup de discussions, vous avez toujours ce sentiment-là d'avoir une opposition. Pendant très longtemps, Sarkozy avait une opposition très faible face à lui. Après, ça s'est mal fini pour lui, mais...
Amaury Guibert, le feuilleton chaque jour dans les journaux, ça vous parle?
Le feuilleton politique?
Oui, celui-ci.
Ah, il y en a plusieurs,
celui-ci,
des feuilletons.
Mais celui-ci.
Je suis d'accord avec
les Français adorent la politique.
Les Français adorent la politique. Il faut toujours se méfier, je pense, d'un écueil qui est justement de feuilletonner et d'aller dans la petite histoire et dans l'anecdote politique. Ça, c'est quelque chose dans les JT, en tout cas, dans le JT de 13h ou dans le JT de 20h, le 12-13, le 19-20. On essaye de prendre un petit peu de recul et d'apporter des clés, d'aller dans les coulisses de certains événements pour apporter du décryptage et pas forcément le compte-rendu au jour le jour de la vie politique.
Bien sûr. Prendre un petit peu de hauteur, c'est ce que nous faisons ce soir, 20h. Et 40 minutes sur France Info. Nous prenons aussi des pauses. Le rappel de l'info avec vous, Jules de Kiss.
Deux surveillants sont ce soir pris en otage par un détenu à la prison de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne. Une cellule de crise est ouverte au ministère de la Justice. C'est déjà dans cette prison qu'un prisonnier radicalisé a agressé au couteau deux surveillants en mars dernier. Sa photo s'affiche maintenant partout, sur les réseaux sociaux, dans les médias. La police diffuse un appel à témoins pour retrouver le chauffard qui a tué un enfant de 10 ans à Lorient il y a deux jours. La jeune femme qui l'accompagnait est elle aussi recherchée. Le suspect a 20 ans, il mesure 1m80, il est de type eurasien, il a le teint mat et les cheveux noirs. Le Sénat adopte le projet de loi santé en première lecture ce soir. Au texte porté par le gouvernement, les sénateurs de droite ajoutent surtout des amendements pour lutter contre les déserts médicaux. Désormais libre et en larmes, le journaliste russe Ivan Golunov remercie tous ses soutiens. Par leur action à l'insable, ils sont parvenus à faire plier le pouvoir russe qui abandonne ses poursuites pour trafic de drogue. L'affaire a indigné une grande partie de la société civile. « Je vais continuer à travailler, à mener des enquêtes », vient tout juste de déclarer le journaliste d'investigation. Dans 5 minutes à peine, c'est l'heure du réveil pour l'équipe de France de football. Les hommes de Didier Deschamps affrontent Andorre, un match déjà crucial pour les qualifications à l'Euro 2020, 3 jours après une première défaite 2-0 contre la Turquie.
France Info.
20h, 21h. Les informés, Jean-François Aquili.
Alors, La République en marche se rêve-t-elle en partie unique, hein, ces défections de certains LR à Paris et en Ile-de-France font un petit peu bouger les lignes. Voici le point de vue de Benjamin Griveaux, candidat à la candidature d'En Marche à Paris, sur France Info ce matin.
Ce sera le candidat soutenu par le mouvement et soutenu d'ailleurs par l'ensemble des autres
vous
candidats.
Vous souhaitez qu'il soit, également soutenu par les Républicains à Paris, par exemple ?
Je vais vous dire, ça n'est pas mon sujet. Ce que je souhaite, c'est qu'il puisse être soutenu par les personnalités politiques qui se retrouvent dans le projet politique porté, qui viennent de la gauche, qui viennent de la droite, qui viennent du monde des écologistes.
Hervé Brusini, ça aurait pu être un sujet pour Raymond Devos, finalement. Ça devient compliqué.
Ça devient extrêmement compliqué. On ne sait plus trop, d'ailleurs, qui est candidat et qui ne l'est pas, tellement il y a de candidats. On se dit que, finalement, tout le monde est à peu près candidat à la mairie de Paris, qu'on soit un grand mathématicien, un expert du numérique, suivez mon regard. Et voilà, il y a une quantité à laquelle on a rarement assisté de candidats. Mais au fait, quelle est leur idée ? Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec Paris ? Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec nous, les citoyens qui habitons Paris ? Autant de questions de fond sur lesquelles on les attend pour l'instant.
Albert Zeno.
Oui, faut remarquer qu'il y a 6 candidats macronistes, donc ça va être compliqué. Alors vous n'avez pas passé cet extrait, mais ce matin sur France Info, Benjamin Griveaux a dit que...
Oui, il y avait plusieurs choses dans l'interview.
Oui, il ne pensait pas que la meilleure chose c'était de faire appel aux militants LaREM, qui eux ne devaient pas choisir. Ouais. En gros, la Commission nationale d'investiture, la CNI, comme on dit chez les politiques, dans les partis, ce sera Emmanuel Macron qui décidera a priori qui sera candidat. Mais je reviens sur ce que vous disiez. Il est important pour Macron de gagner Paris. Visiblement, les élections municipales vont être partagées. Il va jouer plutôt placé, c'est-à-dire mettre des gens dans des listes sur des listes municipales. Gagner des villes, ça va être compliqué parce qu'il y a moins d'ancrage politique. Mais Paris, ça pourrait être l'arbre qui cache peut-être une forêt un peu désertée. Donc, il est important pour lui de gagner cette ville. Ça va être compliqué. Ouais.
Mais là, je reprends mon costume de journaliste. Ça a toujours été comme ça, gagner la mairie de Paris, qui a autant de candidats. J'ai l'impression que c'est assez inédit. Pourquoi est-ce que le président de la République a tant besoin d'avoir Paris ?
Ça donnera le là de la victoire. Il sait très bien qu'il n'y aura pas, le soir, on ne sait même pas quel jour seront les élections municipales, le soir du deuxième tour, et on ne pourra pas annoncer tant de villes détenues par la République en marche. Mais il y aura une chose, c'est que si on annonce Paris gagné par le candidat...
C'est un symbole fort.
Ce sera un symbole très très fort.
Amaury Guibert, Paris, maire de toutes les batailles, il y a une réflexion autour du traitement de cette actualité qui est à venir, au mois de septembre. Hein, on va parler que de ça.
On va parler que de ça. Alors, oui. Paris, on va essayer d'en parler, mais de pas trop en parler, parce que tous les Français n'habitent pas à Paris et il faut bien se garder d'avoir un tropisme parisien ou francilien, parce que voilà, on habite et on travaille dans cette région-là. Mais Paris sera un enjeu, c'est clair. Après, je pense qu'on ne parle pas encore assez des Verts sur Paris, qui ont quand même fait de gros scores dans certains arrondissements. Donc, on n'est pas à l'abri, effectivement, le soir du deuxième tour, de ne pas pouvoir dire La République en marche a remporté X municipalités en France, parce que derrière, il risque d'y avoir des jeux d'alliance pour savoir, effectivement...
Tout se jouera au troisième tour.
Tout se jouera, effectivement, au troisième tour, le jour vraiment de l'élection des maires par les conseils municipaux.
Allez, à 20h45 sur France Info, je vous propose de pénétrer dans les coulisses du journal de 20h.
C'est là, en régie, que tout doit s'organiser à la seconde près. Mélanger en direct la musique, les reportages, les cartons signalant les différentes rubriques et bien sûr, les commentaires.
Nous faisions des commentaires en direct. Il y avait du Maillet, il y avait de Cône, il y avait Salbert. On était dans une petite cabine, on avait la clé à la main. Hop, on appuyait sur la clé quand notre sujet passait et on faisait nos commentaires.
Alors Hervé Brusini, Pierre Sabac, Pierre Tchernia, Pierre Dumaillet, Georges de Cône, Jacques Salbert, ce sont les pionniers du journal télévisé 70 ans.
Oui, une affaire d'hommes. Hein, là, vous avez énoncé que des hommes, quasiment.
Que des messieurs.
Ils étaient 25 et il y avait juste une femme qui s'appelait Maïté Sélarié de Sanois qui faisait la mode. Il y avait une monteuse et puis après, assez vite, il y a eu une illustratrice sonore devenue illustre tout court, qui est Denise Glaser, qui a fait Discorama. Et donc, ces gens-là vont faire le journal contre vents et marées, tout le monde s'en fout, excusez-moi. En France, la télévision ne passionne pas du tout, on n'investit pas. À l'Assemblée nationale, on est dans un climat de guerre froide, des communistes tapent sur la tête d'un jeune secrétaire d'État à l'information qui est Mitterrand. Il l'accuse de vouloir privatiser l'information. Nous sommes en 1949, je le rappelle, de la part de ce président qui, après, on a dit qu'il ne connaissait pas bien la télé, c'était extrêmement faux. Et donc, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de force, et c'est eux qui vont vouloir le faire, c'est pas mal.
Oui, Amaury Guibert, nous sommes ce soir sur France Info, à la radio, à la télé en même temps, nous sommes sur les réseaux sociaux, franceinfo.fr est un site leader. Qu'est-ce qui a changé pour vous? Quelle est la nouvelle donne aujourd'hui?
Vous venez de le résumer, c'est que moi j'ai commencé effectivement sur France 2 pour faire des reportages pour les journaux télévisés, et aujourd'hui on a totalement inverser notre façon de penser, de voir ce métier de journaliste. Effectivement, on peut être journaliste de télévision, mais il faut aussi être journaliste web, parfois radio, parce que c'est le média qui est important et c'est pas la façon dont on va amener une information. L'important, c'est d'abord d'amener une information, de la décrypter, de l'analyser. Et donc les chapelles, les différentes écoles, je pense qu'aujourd'hui c'est de plus en plus du passé et même pour des gens comme Hervé, qui est quand même directeur en charge du numérique, et qui a connu d'autres époques, c'est devenu quelque chose de totalement naturel. Et pour les jeunes générations de journalistes qui nous rejoignent, c'est totalement devenu des réflexes.
C'est le journalisme qui est triomphant, c'est ça qui est intéressant. Quels que soient ses supports, c'est l'information qui est maintenant celle qui va de l'avant.
Alors Émilie Trenne-Nguyen, le 20h reste une institution en France, il y a un chiffre, c'est 17 millions de téléspectateurs en moyenne sur les grandes chaînes confondues. Oui. Vous présentez-vous le 12-13 de la 3, est-ce que ça reste un mythe, est-ce que ça reste une sorte de graal pour les journalistes TV de présenter le 20h?
Ça reste, je pense, la plus belle édition d'information, oui, à la télévision, bien sûr, le 20h, comme vous disiez, il y a certes des audiences, mais au-delà des audiences, tout cela, ça veut dire qu'il y a des responsabilités, que c'est encore très regardé, que c'est encore le rendez-vous des Français le soir pour s'informer. Justement, moi, la télévision, l'information, pourquoi j'ai voulu faire ce métier, c'est parce que c'était le média le plus populaire qui parlait et qui s'invitait dans le salon et qui rassemblait, et c'est ce que je dis souvent, mon papa vietnamien, mon papy algérien, parce qu'il ne... C'était peut-être un peu trop compliqué, la presse, la radio. En revanche, la télé, il y avait l'image qui s'ajoutait à tout cela. Donc, tout le monde était rassemblé autour de la télévision. Et c'est drôle de dire qu'il y a 70 ans, quand l'information télévisée est née, il y avait une centaine, 200 télévisions en France. Donc, c'était quelque chose réservé. La télé, c'était, je sais pas, un objet de luxe. En tout cas, c'était pas du tout généralisé. C'était pas du tout le média populaire, la télévision. Donc, il faut faire avec cette nouvelle donne. C'est la télévision qui parle au plus de gens.
Albert Zénou, vous ne vous sentez pas un petit peu à l'écart ce soir peut-être?
Du tout. Surtout qu'aujourd'hui, même la presse écrite, le Figaro en particulier, développe aussi une offre multimédia. Nous avons deux studios télé. On organise des événements un peu comme celui-ci, mais en partenariat avec la chaîne parlementaire. Comme le disait Hervé, l'importance, ce sont les journalistes. C'est redonner la parole et le pouvoir aux journalistes. C'est donner de l'information, des décryptages. Qu'il se soit sur des supports écrits ou c'est du support télé.
Le JT qui a 70 ans, donc ce mois-ci, on en reparle dans un instant, mais pour l'heure, il est 20h50 sur France Info. Le rappel de l'info avec des nouvelles sur la prise d'otages en cours à la prison de Condé-sur-Sarthe. Avec vous, Jules Dequisse.
Un détenu de cette prison retient en otage en ce moment donc un surveillant et une stagiaire. Ce détenu s'appelle Francis Dorfer. Il a déjà commis au moins 5 autres prises d'otages en détention. Il purge aussi une peine de 30 ans pour le meurtre d'un codétenu. Une cellule est activée au ministère de la Justice. Alors que les Républicains sont en bureau politique ce soir pour fixer les modalités d'élection de leur nouveau chef, le groupe des élus de centre-droit à l'Assemblée nationale se déchire. Les 9 députés quittent ce groupe parce qu'ils s'apprêtent à voter la confiance à Édouard Philippe demain, ce que ne feront pas les 16 députés UDI qui renomment le groupe UDI et indépendant. L'accord sur le Brexit ne sera pas renégocié, prévient d'emblée Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. Il rappelle la ligne de Bruxelles, alors que plusieurs des prétendants au poste de Premier ministre ont exprimé cette intention. C'est notamment le cas de Boris Johnson, donné favori pour s'installer au 10 Downing Street. Voilà qui en dit long sur l'ampleur de la crise au Venezuela. 96% des entreprises ont dû suspendre ou réduire leur activité pendant les trois premiers mois de l'année. C'est essentiellement dû aux pannes d'électricité, aux pénuries d'essence et aux restrictions sur le crédit. Ce sont les résultats d'une enquête présentée par la Confédération nationale des industriels. Et puis l'engouement populaire se confirme pour le mondial féminin de football en ce moment en France. Même pas une semaine de compétition et déjà 1 million de billets vendus d'après les organisateurs. Il en reste 300 000, mais 14 matchs sur la cinquantaine déjà sont à guichet fermé, dont les deux demi-finales et la finale.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Oui, engouement toujours pour le JT de 20h, 17 millions de téléspectateurs chaque soir devant les écrans de télévision de plusieurs chaînes. Hervé Brusini, le tout premier JT, c'est en noir et blanc, c'est en le 29 juin 49, on y est presque. Pierre Sabag, ce sont des images commentées, filmées.
Ce sont des images filmées. Il y a 5 sujets ce soir-là. Il y en a un qui va faire boum, c'est le cas de le dire. C'est un sujet que Sabag a tourné le matin. C'est un voyage en ballon. Il a voulu montrer Paris vu du ciel et ça va se terminer très mal. Il va se crasher près d'Orly. Ça va faire un désordre total. L'électricité coupée, les avions peuvent plus décoller. Bref, le journal télévisé n'a pas raté son entrée. Et Sabag, ça va vous plaire, est un homme de radio. Il a eu cette idée-là en 46, où il avait déjà pris un ballon. Il commentait en direct avec un poste-émetteur et il s'est crashé parce qu'il s'était déjà crashé près de Bordeaux, à 50 km de Bordeaux, et il s'était dit ah, oh, c'est quand même dommage, faudrait que j'aie de l'image. Eh ben, 3 ans plus tard, il passe à l'acte.
Amaury Guibert, ça c'était il y a 70 ans. Pourquoi aujourd'hui cette survivance du JT de 20 heures alors que les modes de consommation des médias ont changé?
Et un JT qu'on a annoncé mort et remort, qu'on a enterré je ne sais pas combien de fois. En tout cas, même moi, j'ai entendu son oraison funèbre plusieurs fois et effectivement, il est toujours là parce que je crois que c'est un rendez-vous et dans toutes les études qu'on peut faire et les retours que l'on a de nos téléspectateurs, c'est très 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 fort. Les gens nous disent, on a besoin d'un moment en fin de journée où on se pose, où on se rassemble et dans ce flot d'informations que l'on a aujourd'hui, on est sur le smartphone toute la journée, on écoute la radio, etc. Voilà, le soir à 20h, on a pendant 40 minutes, 35 minutes, quelque chose qui va nous permettre de prendre du recul, d'analyser, de décrypter. Et je crois que les gens sont encore vraiment attachés à ce rendez-vous et puis aussi quelque chose de familial. C'est encore un programme qu'on écoute souvent en famille, comme on l'a fait avec ses parents ou ses grands-parents. Et c'est ces traditions, quelque part, qui se perpétuent. Et tant mieux pour nous.
Émilie Nguyen, le choix des sujets du JT, il faut faire attention. Il y a la course à l'audience, il y a les pièges à éviter. Il faut quand même respecter un certain code.
Oui, il faut essayer surtout de parler à ses téléspectateurs et de donner, de répondre à leurs questions et donc de donner à voir ce qui les intéresse. Donc c'est avant tout ça et c'est d'ailleurs en cela que se distingue, je crois, le journal télévisé généraliste, donc que ce soit le 20h, 19h, 12h, 13h ou 13h, par rapport aux chaînes info. La chaîne info, elle doit faire vivre l'info en permanence toute la journée et donc parfois, donner de la valeur ou trop de valeur ou trop d'importance ou trop de couverture à une information qui n'en mérite pas. Le JT, lui, a le rôle de trier l'information, de l'ordonner et de la hiérarchiser selon l'intérêt normalement du téléspectateur qui est derrière l'écran, supposé en tout cas du téléspectateur. Et c'est aujourd'hui justement de sentir ce qu'attend le téléspectateur.
Hervé Brusini, vous êtes en charge du numérique, vous, à France Télévisions. Les nouvelles générations ne consomment plus les médias comme jadis, comme leurs parents. Le JT, ça leur parle encore? Pas l'impression. Hein.
Bien sûr que ça leur parle parce qu'il leur arrive de se retrouver devant. Vous savez, quand il y a des grands drames nationaux comme un acte terroriste où on en parlait là dans votre rappel des titres, le football, eh bien, ils sont devant le poste de télévision. Alors, pour autant, leur mode de consommation a changé et d'ailleurs le JT, a essayé d'accompagner ce changement. Les journaux ont ce qu'on appelle des formats. L'œil du 20h, dans ma rue, le choix du 20h, ce sont des choses qui viennent du web, car le web, lui, fait 3 questions pour les 5 questions clés pour comprendre un sujet. Eh bien, ce genre d'analyse de l'information, les nouveaux visages éditoriaux de l'information viennent du web et sont importés par le journal télévisé. Puis, dernier point, toutes ces choses qu'on voit écrites sur l'écran viennent des chaînes d'infos en continu et quelque part, le 20h boucle la boucle en utilisant les codes des chaînes d'infos en continu et donc en montrant qu'il est sur le coup.
Émilie Tranen-Guyen,
oui, surtout, ce qu'il faut dire, c'est que ça fait 70 ans que le JT existe, mais pourquoi est-ce qu'il perdure et qu'il a toujours autant de succès? C'est qu'il s'adapte. Il s'adapte à la manière de s'informer et il s'adapte aux médias qu'il y a tout autour. Et il y a des cas où le journalisme et l'information apprend encore en faisant. Je pense, par exemple, aux attentats 2015 en novembre. Il y a des choses qui ont été traitées d'une certaine manière, qui ne se seront plus traitées de cette façon. Il y a des procédures qui changent. Il y a une autocritique permanente du journal télévisé, de la manière d'informer les gens qui se fait.
Juste un point, le grand changement à mes yeux, ce sera la conversation avec les gens qui regardent, cette capacité qu'offre le numérique d'interroger, de demander plus d'explications, de critiquer le journal télévisé et le rôle qu'ont les journalistes pendant le journal et à côté du journal, d'être en conversation permanente avec le public.
Vous voulez dire la conversation entre les sachants et les subissants, en quelque sorte.
Je vois que vous avez tout compris.
Ça reste toujours une grande messe, le 20h. Dès qu'il y a un moment important, on l'a vu quand Wauquiez a dit qu'il allait démissionner, il l'a fait un JT.
C'est le 20h. Et c'est 20h. La une du Figaro demain, Albert Zenou.
C'est sur Édouard Philippe qui, renforcé, veut relancer les réformes.
Allez, avec vous, Émilie Tranen-Guyen, on peut parler du 1 que vous ouvrez régulièrement.
Avec plaisir. Hein,
voilà, vous l'ouvrez quel jour sur
on
France Info?
Sur France Info, rendez-vous tous les mercredis soirs à 22h30. C'est donc l'adaptation de l'hebdomadaire que vous trouvez en kiosque, le 1, donc fondé par Eric Fotorino, qui est avec moi d'ailleurs en plateau tous les mercredis soirs sur France Info. Et donc, on parle d'un thème d'actualité, on le décortique avec plusieurs personnes autour du plateau.
Émilie Tranen-Guyen, Amaury Guibert, Hervé Brusigny, Albert Zenou, merci d'avoir participé aux Informés. Pour ma part, je vous dis à demain soir, prochaine édition sur France Info. Bonsoir.